On avait terminé la semaine dernière par un espèce de suspense. On sait pas. Les chansons, et bien entendu, il s'est débrouillé pour oublier ce qu'il avait promis à Yosef. Il avait promis à Yosef qu'il allait le rappeler. Non, en principe, c'est relativement étanche. Il avait promis à Yosef que il allait s'occuper de lui, quoi, en principe, parler de lui à Paro pour éventuellement obtenir sa libération. Mais en tout cas, il a oublié, enfin, ça le dit, il a fait exprès d'oublier. Mais bon, Akadosh Baroukh Hou continue son opération, en quelque sorte, ici. Tout ça, c'est toujours, on est dans l'ascension de Yosef. Il est toujours en prison, mais il est très bien vu et c'est lui qui gère tout ce qui se passe en prison. Et pour l'instant, il n'avance pas encore dans son projet. À ce moment-là, au bout de 2 ans, Paro rêve. Pourquoi est-ce que ça prend 2 ans? Parce que Yosef, quand il a parlé avec les chansons, il lui a dit, tu te rappelleras de moi et tu m'oublieras pas. Deux choses. Donc là, il en a pris pour 2 ans. Deux mots de trop, ça fait 2 ans de prison de plus quand on s'appelle Yosef. Paro rêve. Et de nouveau, le problème des rêves, très souvent, et là, encore une fois, on a un vehiné, Omed alayor. Et voici, mais on a dit, les voici veulent tout nous dire, il se passe quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attend pas. Il est Omed alayor. Il est debout au-dessus du Nil. Alors, il faut juste se souvenir que le Nil, c'est une divinité en Égypte. Le Nil est une divinité, c'est une divinité très importante, puisque ce sont les fameuses crues du Nil qui donnent à manger à l'Égypte. Bon, ça amène du limon, en fait, c'est tout à fait favorable. À la limite, les problèmes en Égypte, on n'a pas de problème de nourriture. Le Nil nourrit. Donc c'est une divinité très importante. Deuxième point, les pharaons, les pharaons en Égypte sont aussi des divinités. A priori, le Nil est une plus grande divinité que Pharaon. Voici dans son rêve. La grande nouveauté, c'est qu'il se rêve au-dessus du Nil. Il rêve, il est une divinité plus importante que le Nil. Que s'il est une divinité inférieure au Nil, alors il est d'une certaine manière une forme d'intendant. C'est l'intendance qui il va gérer ce que le Nil a produit. Le Nil produit de la nourriture. Et lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de gérer. Donc d'abord, il se rêve au-dessus du Nil. Vehine, donc. Et ensuite, Vehine minayor, un deuxième Vehine. Il se passe une chose tout à fait extraordinaire. De ce Yehor, de ce Nil, du Nil, Olot, Sheva Parot, Yifot Mare, Ouvriot Bassar. De ce Nil montent 7 vaches, belles, en pleine santé, et elles paissent ici dans ce marécage. Vehiné, troisième Vehiné. Encore quelque chose d'encore plus inattendu. C'est immédiatement après les sept vaches, les belles vaches, en pleine santé. Il y en a sept autres qui viennent derrière elles, qui montent elles aussi du Nil. Mais elles sont affreusement moches. Elles sont très, très maigrichonnes. Et elles se tiennent auprès des premières vaches. Et tout ça, ça se joue al Sfat au bord du Nil. Puis tout à coup, les vaches deviennent carnivores. Parot Bassar. Et Parot, tout à coup, les vaches maigres, elles vont manger les vaches grasses. Ah oui, t'as raison. Va voir ça tout de suite. Mais ça peut être de la fois. Voilà, ici, il y a Dvorah. Ah, quoi, pour la porte? Non, alors tu joues la clé numéro 2. Door 1, mais clé numéro 2. Et Emmanuel, ça y a.
Bonsoir Rav.
Bonsoir.
Hanouka Sameach, merci.
Merci, vous aussi.
Merci.
Alors voilà, ces vaches, les maigres, elles avalent, elles mangent les grasses. Fin du rêve. Vaïkatz Paro, Paro se réveille. Et immédiatement après, il se rendort et il re-rêve. Mais Vayachalom Shenit. C'est-à-dire, ce n'est pas un nouveau rêve. C'est la répétition du premier rêve, seulement avec d'autres figurants. Iné, Vehiné, de nouveau, n'est-ce pas? De nouveau. Surprise, dans le deuxième rêve, sept, a priori sept épis, probablement sept, comment on dit ça? Hein, la partie où il y a tous les grains sur une seule tige. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. La partie où il y a tous les grains de blé sur un seul canet, sur une seule tige. Magnifiques épis de blé, magnifiques. Veiné, deuxième veiné. Sheva Shibolim Dakot, Sroufot Kadim, Somchot, même tableau, des épis misérables qui montent, qui poussent après les premiers épis. Et les maigrichons avalent, ils mangent, aval, les épis très pleins, très gras. Et Paro se réveille. Et voilà, c'est un rêve. Bonsoir. Ok, c'est un rêve. Il comprend que ça forme un seul rêve en réalité. Arrive le matin, il arrive le matin et il est vraiment, il est très, un petit peu brouhaha, ça veut dire ça sonne dans son esprit, quoi. Il est très mal à l'aise. Alors il fait venir tous les Khartoumé Mitzrayim, tous les magiciens de l'Égypte. Magiciens, mais évidemment, Il s'agit pas seulement des magiciens, mais tous les gens qui s'occupent de magie, donc y compris les romanciers, l'interprétation des rêves, etc. Tous les sages. Et Paro leur raconte son rêve. Et personne ne peut le lui expliquer. Personne n'arrive à donner du sens à ce rêve. Ici, à cet endroit-là du texte, c'est étonnant, mais en vérité, ça n'est pas étonnant parce que nous, on sait que Paro n'a pas raconté le rêve tel qu'il l'a vécu, tel qu'il l'a rêvé. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, personne ne pouvait l'expliquer. Parce qu'il n'a pas dit un point absolument essentiel. C'est-à-dire que évidemment, les préposés à l'interprétation des rêves, les nécromanciens, les nécromanciennes, je ne sais pas, et tous les magiciens, enfin, tous ces gens-là, ils ont tous fourni des explications. Mais Paro sentait bien que leurs explications n'étaient pas les bonnes. Et évidemment, il ne pouvait pas leur dire, vous pouvez pas prouver parce que je ne vous ai pas donné le point essentiel de ce rêve. Et comme Paro, il a l'air de prendre très mal le fait que personne ne l'explique, quoi. Ces nécromanciens, ils sont censés. Enfin, ces gens-là, ces magiciens-là, ils sont censés, ils sont payés pour interpréter les rêves. Donc, ils ont une obligation de résultat et il n'y a pas de résultat. Alors, Paro s'énerve. Il est en colère. Et alors, dans les serviteurs de Paro, il y a les chansons. Il est là, lui. Et il se fait un petit raisonnement. Il se dit, si jamais Paro apprend que je suis au courant de ce qu'il y a un interprète de rêve, qui a l'air d'être très fort, parce qu'il a interprété mes rêves et les rêves du Panthier. Exactement, ça s'est passé exactement comme il l'avait dit, et que je ne lui ai pas dit à Paro que je connaissais un interprète, j'ai perdu quoi. Si Paro l'apprend, j'ai aucune chance de m'en sortir. Donc il se décide à parler. Il est obligé de parler, il est obligé de dire quelque chose de Yosef. Mais évidemment, il ne va pas dire des bonnes choses de Yosef. Il va dire le minimum de choses positives sur Yosef. Alors, il est obligé de dire être atarei ani maskir hayom. Je suis obligé de mentionner aujourd'hui que j'ai fauté. Paro s'était mis en colère contre ses serviteurs. Et il m'a mis, moi et le panetier, nous a mis en prison. Dans la prison du Saratabachim. Dans la prison de. Le Saratabachim, c'est, si vous vous souvenez, c'est Potiphar. Potiphar, il avait une prison à lui. C'est-à-dire qu'il était tellement important, il était peut-être aussi gestionnaire de sa prison. C'est un peu surprenant parce que ni les chansons ni le panetier n'ont à voir avec la boucherie. Il était le chef des bouchers. C'était peut-être quelque chose de très important. Mais comment ça se fait qu'ils ont atterri dans la prison du boucher. Pardon? Voilà, il faut croire que il était tellement important que c'est devenu la prison des princes. Parce que les chansons, le palier, c'est les princes qui servent Paro. N'est pas servi par n'importe qui. Donc il lui dit, voilà, il nous a mis en prison et nous avons rêvé, chacun son rêve, la même nuit, moi et le palier. Et on avait aussi rêvé l'interprétation du rêve de l'autre. Et avec nous, il y avait Nahar Ivri Eved de Sarat Tabachim, un jeune homme hébreu qui était un esclave justement du Sarat Tabachim, du prince des bouchers. Van Saperlo, et nous lui avons raconté le rêve, va Iftarlanu, et Tralamotenu. Il a interprété nos rêves, Ish, et Tralamo Pata. Il a interprété le rêve de chacun d'entre nous, chacun son rêve, et Vahi Kacher Patarlanu, Kenaya. Et les choses se sont passées exactement comme il nous les avait interprétées. Oti Yeshiv Alkani, moi j'ai été remis en place en quelque sorte, ma fonction. Veoto Tala. Et lui, il l'a pendu, c'est-à-dire Paro l'a pendu. Alors bon, la Torah, c'est pointu, le récit avance très vite. Paro a fait appeler Yosef. On l'a sorti à toute vitesse de son trou, là. On l'a rasé, on l'a changé ses vêtements. Bon. Et on l'a amené devant Paro. Alors, c'est intéressant, c'est que j'ai traduit par on lui a fait ces choses-là, mais en vérité, dans le texte, c'est marqué qu'il s'est rasé tout seul. Il a changé ses vêtements tout seul. Sur l'ordre de Paro, on lui a probablement fourni ce qu'il fallait, mais il n'a pas eu des gens qui l'ont aidé, quoi. On ne l'a pas traité comme un prince, c'est un événement. Et il est venu lui-même, Vayavo El Paro. C'est lui qui est venu chez Paro. C'est pas qu'on l'a pas transporté comme ça. Il est allé chez Paro. Et Paro lui dit, voilà, j'ai rêvé. Personne ne peut me l'interpréter, ce rêve. J'ai entendu à ton sujet, j'ai entendu dire que tu écoutes un rêve pour l'interpréter. C'est-à-dire, peut-être, écouter Tishma. Ça veut dire, tu entends, mais, c'est-à-dire, tu es capable d'entendre le secret du rêve, en quelque sorte, le sens du rêve, qui te permet de l'interpréter. Imaginez Paro, là, de Joseph, il est devant Paro. Voilà, Paro lui dit, j'ai entendu que tu es un très bon interprète, etc. Bon, alors, il avait qu'à se taire et laisser Paro penser que c'est lui l'interprète. Mais Joseph est quelqu'un d'honnête, dont il dit à Paro, pas du tout, hein, pas du tout, c'est pas moi. Tout de suite, il dit à Paro, pas du tout. Il lui dit, Viladai, c'est pas moi. Ça veut dire, ça me dépasse complètement, ça. Elohim, Yane, Shlom Paro. C'est Elohim qui va répondre, qui va veiller au bien-être de Paro. Ça veut dire, on ne lui a pas demandé d'être psychanalyste de Paro. Pourquoi il lui dit Elohim va veiller au bien-être de Paro? On lui dit, Elohim va me. Pourquoi c'est dit en termes de bien-être? Ça devrait être dit bon, en termes d'interprétation, c'est tout. Pourquoi c'est le bien-être? Qu'est-ce que ça veut dire ici, Shlom Paro? C'est-à-dire que Yosef lui dit, le rêve, l'interprétation du rêve va te rassurer. Il lui annonce, il n'a pas encore commencé à interpréter le rêve, mais il lui dit tout de suite, l'interprétation du rêve qu'Elohim va fournir, c'est une interprétation qui va rassurer Paro. Je vois que tu es terriblement agité, tu es en colère parce que personne n'interprète comme tu le veux. Eh bien, Elohim va gérer ça et il va le faire de telle sorte que tu te sentes bien. Le rêve va être un rêve apaisant. Oui, pas un rêve qui va te faire du souci. Bon, il faut imaginer maintenant la situation de Yosef, là, qui est dans une situation tout à fait extraordinaire. Il arrive devant Paro, quoi. Et tout à coup, il est en train de conseiller la puissance, des bons hommes les plus puissants au monde. Donc, Yosef n'a pas encore entendu le rêve de Paro. À ce moment-là, Paro parle, Vaydaber. Et il parle à Yosef. Et il lui dit, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit que Paro parle à Yosef? Ça veut dire, évidemment qu'il lui parle, non? Mais l'important, c'est qu'il parle vraiment à Yosef. Je crois que ça veut dire que Paro, ce n'était pas quelqu'un qui parlait à n'importe qui. C'est un privilège que Paro s'adresse à quelqu'un. Lui, voilà. Donc Paro lui parle. C'est-à-dire que il y a tout de suite quelque chose de particulier qui s'installe dans la relation entre Paro et Yosef. Il lui parle. Paro, il aurait très bien pu raconter son rêve. Je raconte le rêve. Moi, je parle maintenant et Débrouillez-vous pour écouter, mais je parle, je ne m'adresse pas. Là, pas du tout. C'est elle, Yosef. Elle lui dit, dans mon rêve, Ineni, me voici, je suis Omed. Vous entendez, il dit, Al-Sfat Ayo. Je suis debout sur la rive du Nil. Alors, revenez en arrière et relisons le rêve. Les premiers mots du rêve, concernant le rêve, c'est quoi? C'est dans le premier verset de la paracha. Qu'est-ce qui est dit? Veine omen al ayor. Dans son rêve, il est au-dessus du Nil. Ce qu'il dit à Yosef, c'est ce qu'il a dit aux autres aussi, probablement. Il leur a dit, je suis au bord du Nil. Pourquoi il ne leur dit pas la vérité? Parce que c'était impossible à dire. Les auditeurs ne sont pas des idiots. S'il leur dit que dans son rêve, il rêve d'être au-dessus du Nil, eux, ils traduisent, nous, on pense que nous. Mais à ce moment-là, le Nil, c'est une idole. Très, très importante. Et lui, il dit, je suis au-dessus du Nil. Il ne peut pas dire un truc pareil. Il n'ose pas le dire. Il est paro, mais il n'ose pas dire ça. Parce que s'il le dit, il risque d'être dégommé tout de suite. Lèse majesté, tout ce que tu veux. Lèse idole, lèse divinité. Donc, il dit, je suis au bord du Nil. Donc, c'est déjà la première. Les premiers mots sont déjà faux. Et voici, alors le reste du récit, là, quelques petits changements. Mais bon, le grand changement, ben, c'est ça. Le reste, les vaches, les épis, ce n'est pas exactement toujours les mêmes mots, mais voilà. Seulement, il dit très clairement que après que les maigres aient avalé les grasses ou les épis gras aient été avalés par les épis maigres, il ne s'ensuit pas du tout que les maigres sont devenus gras. Les maigres sont toujours aussi maigres. C'est-à-dire quelque part. Les vaches grasses, elles ont disparu à l'intérieur des vaches maigres. N'en voit pas trace. Et là, il dit, après, avec ça, je me suis réveillé. Et j'ai vu dans mon rêve, le deuxième rêve, même chose avec les épis. Dans les épis, il ne redit pas que on voit rien du tout, mais bon, on a compris que c'est la même chose. Et j'ai dit au Khartoumim, j'ai raconté la chose à mes Khartoumim, mais personne ne m'a rien raconté, personne ne m'a expliqué le rêve. Intéressant parce que dans ce dernier verset là, verset Kavdalet, le 24, il dit Ein Magidni. Il ne dit pas Ein Poter, mais il dit Ein Magidni. Personne ne me raconte ça veut dire ici. Personne n'arrive à faire un récit avec ce qui tient debout, avec ses rêves. Une traduit, nul n'a pu me l'expliquer dans le article, mais c'est pas la traduction. Donc, ce qui est écrit dans le texte, c'est Ein Magidli. Alors, peut-être qu'on fasse juste une toute petite pause pour expliquer comment on interprète un rêve. Bon, je ne sais pas, un cours privé, dans le rêve, hein. Mais dans la Gemara, on explique comment fonctionne le rêve. Fonctionne de la manière suivante. Quand tu veux raconter un rêve, il faut que tu saches la chose suivante. Il y a un grand principe qui dit que dans un rêve, Hakol holech achar hapé. Littéralement, ça veut dire tout va d'après la bouche. C'est-à-dire, le rêve, il existe tel que tu l'as raconté, tel que tu l'as formulé. Ça veut dire, dans ta tête, quand tu as rêvé, les choses pouvaient être assez floues. Les choses pouvaient être interprétées de plusieurs manières. Et quand tu le racontes, tu racontes d'une certaine manière. C'est un choix que tu as fait, donc, de le raconter d'une certaine façon. C'est une des raisons pour lesquelles la traduction en elle-même de la Torah, par exemple, est un désastre. Parce que la traduction, c'est une des interprétations. Or, la Torah, on sait bien qu'elle a subi une panine, qu'elle est susceptible d'être interprétée de très nombreuses façons. Et quand on la traduit, c'est un désastre, parce qu'on a éliminé toutes les autres façons dans la traduction. C'est une certaine lecture de la chose qui est faite et qui élimine les autres. Il faut qu'on le dise en disant que la traduction, c'est une trahison. Okay? Même si c'est surtout en italien. Mais il faut savoir que ça a à voir avec Hanouka. Parenthèse dans la parenthèse. L'autre problème à Hanouka, c'est on avait affaire avec les Séleucides. Les Séleucides, c'est le royaume du Nord, en fait. Quand ils ont partagé les généraux d'Alexandre, quand ils se sont partagés son empire après sa mort, il y a eu un royaume du Nord et un royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'est la Syrie et au-delà. Et le Sud, ben, c'est l'Égypte et l'Afrique. Ceux qui étaient au pouvoir dans le royaume du Sud, ce sont les Ptolémées. Et le personnage célèbre pour nous parmi les Ptolémées, c'est Talmaï. Amelech, c'est celui qui a fait traduire le Coumache en réalité. Ce n'est que le Coumache qui a été traduit par les 70 Talmidei Chachamim. Il avait isolé chacun dans sa maison, etc. Ils ont fait ce qu'on appelle, c'est la 60, ça s'appelle la traduction des 70, la Septuagint. Il faut que vous sachiez que le jour où on a traduit la Torah en 70 langues, À Alexandrie, dans le sud, ils ont fait des jours de fête. Parce que les gens à Alexandrie, ils étaient tellement assimilés, ils étaient incapables de lire la Torah en hébreu. Donc elle leur a été enseignée. Grâce à ça, ils l'avaient en grec. Donc eux, ils ont fait une fête. Mais en Eretz Israël, on a fait un jour de deuil. 3 jours de deuil. On a dit que c'était la même chose, c'est l'équivalent de la faute du veau d'or. Pour la raison que je viens de vous dire. Il y a d'autres raisons encore, mais c'est une des 3 grandes raisons, en fait. Donc, pour revenir à notre affaire, c'est ça qui est dit, je pense, dans ce passouk. En magidli, ah oui, alors, j'étais en train de vous expliquer comment on interprète. Si tu racontes ton rêve à quelqu'un pour qu'il te l'interprète positivement, parce qu'une fois que tu l'as raconté, c'est trop tard, c'est fini. Parce qu'il est figé dans la façon dont tu l'as raconté. Donc, si tu veux que quelqu'un t'interprète ton rêve positivement, par exemple, tu as rêvé une chose et tu es un peu effrayé, et tu voudrais que quelqu'un l'interprète positivement, en fait, c'est tout à fait possible. Mais alors, il ne faut pas lui raconter ton rêve. Il faut dire, dans mon rêve, il y avait un élément comme ci, un élément comme ça. Tu lui donnes des éléments. Bon, une espèce de matière de rêve, mais pas du tout. Et c'est à lui d'être ma guide. C'est celui lui va faire un récit à partir de certains des éléments que tu lui as donnés. Avec la possibilité de n'en utiliser qu'une petite partie. Le reste est considéré comme dvarim betelim, comme des choses vaines. Et dans un rêve, il y a toujours des parties complètement vaines, qui servent à rien, qu'on C'est ça, mais ça n'a pas d'importance. L'image, c'est toujours quand vous allez au bord de la rivière pour chercher de l'or, vous tamisez, vous allez tamiser, vous aurez beaucoup de sable. Et si vous avez un peu de chance, il y aura peut-être quelques milligrammes d'or. Mais d'abord, il va y avoir pas mal de kilos de sable à tamiser. Donc, c'est la même chose ici. Dans ce rêve, dans le rêve, vous donnez. Si vous voulez le faire interpréter par quelqu'un, que des éléments, et à lui de choisir peut-être que quelques éléments et laisser tous les autres. Vous les considérez, ils pourront les considérer comme dvarim betelim, une chose inutile, et faire un récit qui tienne debout de ce rêve. Il faut que le rêve ne soit pas des éléments, mais un récit, une agada. Et une magie, personne ne me fait un récit cohérent, acceptable de mon rêve. OK. Alors, Yosef, il dit à son, voilà, il parle. Yosef dit à Paro. Chalom Paro Echad. Le rêve de Paro, c'est un seul rêve. Il y en a eu deux. Mais c'est un seul et même rêve. C'est quoi? Et Asher ha-Elokim osé, il guide le paro. Ce qu'Elokim fait, il vient de le raconter à paro. Il te le dit. Sous-entendu, si on te dit cela, comme toujours, la question, elle est. Si on te donne, tu as une information, ben il faut te demander pourquoi j'ai cette information. Se dire, ça veut dire qu'est-ce que je peux en faire? Si elle m'a été communiquée, c'est pour que j'en fasse quelque chose. Quand Hachem a dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome, Abraham s'est dit, bon, alors pourquoi il me raconte ça pour ma culture générale? Non, pas pour ça. C'est pour que j'en fasse quelque chose. Alors, il a décidé que ça voulait dire que, bon, qu'est-ce que je peux faire? On annonce une destruction. Je peux essayer de m'opposer à la destruction. Trouver des arguments. Mais là, on ne peut pas dire simplement non. Alors, il va trouver des arguments. Il va dire, mais peut-être qu'il y a des tzadikim. Donc, Il commence à négocier avec Hachem. Donc Hachem va dire à Moshe Rabbeinu qu'il allait détruire le clan Israël. Enfin, plus Hachem lui a donné peut-être encore un coup de pouce supplémentaire pour que Moshe Rabbeinu comprenne que, ok, je peux m'y opposer. S'il me l'a dit à l'avance, c'est que je peux m'opposer. Il va s'opposer. Donc c'est un seul rêve et c'est un message d'Elohim à Paro pour lui dire ce qui va se passer. Alors les sept vaches grasses, ce sont 7 ans, c'est 7 années. Et les sept épis gras, c'est 7 années. Donc c'est ça, Chalom Echad. C'est le même rêve. C'est un seul rêve. Et au contraire, donc les vaches maigres et les épis maigres, qui viennent après, juste après les gras, c'est aussi 7 années. Mais les premières années, les premières sept années, c'est intéressant dans l'interprétation. Pour l'instant, Yosef ne dit pas que seront ces 7 années. Par contre, dans les 7 années mauvaises, il dit tout de suite, ça sera 7 années de Rahav, de famine. Parce que ce qui est important, c'est la deuxième information, c'est qu'il va y avoir 7 ans de famine. À la limite, s'il y avait seulement 7 ans d'abondance qui ne sont pas suivis par la famine, on a le temps de voir, hein. On n'a pas besoin d'être averti, tant mieux. Par contre, ce sur quoi il faut être averti, c'est les 7 années de famine. Ce qu'il va expliquer, c'est que c'est vrai, il va y avoir 7 années de famine, mais elles vont être précédées de 7 années d'abondance. Alors, il récapitule. 7 années viennent, qui sont des années d'abondance dans tout le pays d'Égypte. Une très grande abondance. Ça va Gadol. Grande abondance, si on ne peut pas parler comme ça. Et dans toute l'Égypte. Mais cette année, après ces 7 années-là, il y a 7 années qui reviennent juste après elle. Venishkar kol asava be'eretz Mitzrayim. V'chila ha'ra'av et ha'aretz. C'est-à-dire, les années de famine vont être telles que on va oublier complètement les 7 années d'abondance. Au sens, il restera rien de 7 années d'abondance après ces 7 années de famine. Et la famine qui va te suivre, elle va être terrible. On verra plus aucune trace de cette abondance. Alors maintenant, si tu me demandes pourquoi le rêve a été répété, c'est le même rêve. Pourquoi le dire deux fois? Alors ça aussi, je vais te l'expliquer. Ki nachon adavar me'im ha'elokim ou me'ma'er ha'elokim la'asoto. C'est parce que la chose, elle va se faire très vite. Voilà. Avec ça, il a terminé d'expliquer le rêve. Normalement, Quand vous êtes, priori, c'est difficile de se représenter la situation, mais quand vous êtes devant Paro et que Paro vous a demandé d'interpréter un rêve, une fois que vous avez interprété le rêve, vous ne pouvez pas continuer de parler, on ne peut pas parler devant Paro. Yosef, il est complètement fou. Il va donner des conseils à Paro. Il lui dit maintenant, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il lui dit aussi OK, si on t'a donné cette information, c'est pour que tu en fasses quelque chose. Alors, je vais te dire ce que tu dois en faire. Attends, et maintenant donc. Yéré Pharaon, Ish Navon Vichacham, Ishitiou Aleres Mitzrayim. Maintenant, il faut que Pharaon agisse, en fait. Il faut qu'il nomme, enfin, qu'il cherche d'abord un homme clairvoyant et sage, comme ils disent. Qui soit responsable, qui va diriger le pays d'Égypte. Bon, c'est 14 années de crise, en fait. Donc, il faut nommer on traduit comme ça, des commissaires sur tout le pays. Et pendant les 7 années d'abondance, on va préparer le pays d'Égypte à faire face aux années de famine. Donc, pour ce faire, je lui dis, voilà, il faut que. Il faut partager le pays d'Égypte dans ces 7 années d'abondance. Donc, des provinces, etc. Dans chaque province, on va mettre de côté de la nourriture. On va remplir des silos pendant ces 7 années d'abondance. Et tout ça, ce sera sous l'autorité de Paro. Paro, il est bien empereur d'Égypte, mais il y a plein de gens qui ont des terrains. Il y a toutes sortes de petits roitelets, en fait, dans cet empire, qui sont des gens avec des terrains, etc., qui cultivent, etc. Il dit tout. Alors, Yosef dit à Paro, tu prends le pouvoir partout. Dans les villes, et on va garder ça dans les villes pour que ça soit sous surveillance. Donc, on va faire donc des réserves pour les 7 années de famine. De telle sorte que le pays d'Égypte ne soit pas. Le petit carré, il ne doit pas être complètement coupé du monde, quoi. Ne plus exister à cause de cette famine. Donc là, la chutzpah de Yosef, c'est une insolence de parler devant Paro, et surtout, il lui donne des conseils. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire. Le petit esclave juif, là, qui vient donner les conseils à l'empereur d'Égypte. Bon, s'attend à ce que. Enfin, c'est déjà un miracle qu'il les laissait parler. Que dans ces régimes-là, imaginez quelqu'un donner un conseil à Hitler ou à Staline ou. On ne laisse pas parler. Ne parle que des morts, il y a des vivants, c'est la même chose. Mais ce qui est important, Paro, ou Donc la chose, elle a plu à tout le monde. à Paro comme à tous ses serviteurs. Et du coup, Paro dit, est-ce qu'on va trouver un homme comme celui-là? Qui a, et alors là, il dit, Asher Ruach Elohim Bo. C'est un homme en lequel se trouve l'esprit d'Elohim. Donc c'est un bonhomme inspiré, visiblement. Donc c'est remarquable. Paro, il connaît Elohim. De Paro, de Moshe Rabbeinu, il dira, quand Moshe lui dira, Let my people go, c'est un ordre d'Hachem, il dira, Hachem ne connaît pas. J'ai regardé dans le Ouzou des dieux, il n'y est pas. N'y est pas. Lui, il dit tout de suite, a l'esprit d'Elohim. Alors, c'est toujours Elohim, hein, ce n'est pas Hachem. C'est Elohim. Donc il lui dit, il dit à Yosef, puisque Elohim t'a dit tout ça, il t'a donné toutes ces informations, toute cette connaissance-là. Bon, alors personne n'est comparable en sagesse et en clairvoyance, n'était comparable en sagesse et en clairvoyance. Donc c'est toi qui seras Al-Béti, là tu seras au-dessus de ma maison, Val-Picha Isha Kol Ami, et tout mon peuple sera nourri sur ton ordre. Rakakiseg d'Amimeka. Au-dessus de toi, il n'y aura que le trône, mon trône. C'est seulement par ce trône que je suis Egdal, que je suis plus Gadol, je suis plus grand que toi. Et il lui dit, vois, je t'ai installé au-dessus de tout le pays d'Égypte. Pharaon a enlevé son, comme toujours, son sceau. La main, il l'a donné à Yosef. Ça veut dire que Yosef va prendre des décrets et il va signer, comment? Il va signer Pharaon. Et donc, à ce moment-là, Vayalbesh oto, Vayasem, donc là, il a fait mettre des vêtements, on a fait revêtir des vêtements de lin raffiné, il a mis un collier d'or à son cou. Et Vayarkev et il l'a mis sur le deuxième char. Le premier char, c'est pour Paro. Il l'a fait monter sur le deuxième char de Paro, donc. Et on a publié devant lui, on a crié devant lui. Il était Avraham. Et ainsi, on lui a donné la haute main, en fait, sur tout le pays d'Égypte. Donc, la parole lui dit encore une fois, Ani Paro, je suis Paro, Ubiladecha lo yarim ish et yado ve et raglo. Je suis Paro, mais à part ça, sans toi, personne ne lèvera ni la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Rien ne bougera, sauf sur ton ordre. Donc il l'a maintenant, il lui a changé de nom, il l'appelle Tsofnath Paneach et il le marie avec Osnath Bat Potiphéra, la fille adoptive de Potiphéra. Ce Potiphéra, il est, semble-t-il, Cohen On. Alors, le mot Cohen, des fois, il veut dire prêtre, mais des fois, il veut simplement dire chef ou noble. Donc, a priori, ce n'était pas un prêtre, c'était, semble-t-il, quelqu'un d'important. On. C'est On, est-ce que c'est une divinité? Je sais pas. Donc, Potiphar était donc quelqu'un de très important. Il lui a donné la fille de Potiphar et Vayetse Yosef el Eretz Mitzrayim. Et Yosef a fait un voyage à travers toute l'Égypte, quoi. Et là, maintenant, des indications pour Yosef, à ce moment-là, il a 30 ans. Quand il est devant Paro, roi d'Égypte, et qu'il va sortir, voyager dans toute l'Égypte, il a 30 ans. Donc il a quitté son père quand il avait 17 ans. Il a maintenant 30 ans. 30 ans maintenant, il est vice-roi d'Égypte et il est marié avec la fille de Potiphar. Alors, Potiphéra, dit Rachis, c'est Potiphar. Rachis dit que il est. Quoi, il s'appelle maintenant Potiphéra? Parce qu'en fait, il a été castré en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Madame Potiphar qui avait les yeux, qui a porté les yeux, qui avait un désir pour Yosef. Lui aussi, il avait un très fort désir pour Yosef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que on l'a mis sur le char et on a proclamé, on a dit qu'il était Avrech. Ce mot de Avrech. Alors, Av, on entend ce que c'est. Av, c'est père. Et Rach, Avrech, ça veut dire roi en araméen. Alors, est-ce que ça veut dire que Avrech, ça veut dire il est père du roi, c'est-à-dire conseiller du roi? On l'a présenté comme le conseiller du roi. Mais d'autres lectures, mais bon, c'est vraisemblable que c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on parle quand on publie, quand on promène quelqu'un, on va dire qui il est. Donc, pendant ces années-là d'abondance, la terre, elle a produit à pleine poignée, en fait. Kvatsim, c'est à pleine poignée. C'est-à-dire, blé, il était très, très, très riche. Alors, Yosef a rassemblé toute la nourriture durant ces 7 années. Et il l'a déposé dans les villes. Donc, on a rassemblé toute la nourriture des champs qui étaient dépendants, enfin, autour d'une certaine ville, dans la ville en question, parce que quand les choses sont dans la ville, on peut mieux les surveiller. Si on avait laissé ça dans des granges ou des endroits un peu partout, c'est difficile à surveiller. Donc il y a eu tellement de blé qu'il y en avait, toujours l'expression que Kholayam, on avait comme du sable de la mer. Et dans la suite, là, ça c'est son, voilà, c'est son job. Mais en même temps, on mélange la vie familiale de Yosef. En même temps, on dit, quand on amassait toutes sortes de richesses, dans toutes les richesses de l'Égypte, et en même temps, lui, il a deux fils qui lui naissent. Et ses fils sont nés. Avant les années de, ils sont nés pendant les années d'abondance, donc avant les années de famine. Il y a une halakha qui dit que dans une année de famine, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. Parce que quelque part, on n'a pas le droit de prendre son plaisir alors que d'autres sont en train de crever de faim, quoi. Alors, lui, je ne sais pas s'il le savait, dans le texte, ce n'est pas marqué. Hazal vont dire qu'effectivement, on dit que la fille adoptive, là, dont on parle, qui s'appelle Osnat, de Madame Potiphar, c'est en fait la fille que Dina a eue avec Shrem. Elle était violée par Shrem, elle a eu une fille. C'est cette fille-là que Yaakov a en quelque sorte exilée en Égypte. Il ne voulait pas qu'elle reste dans les environs parce que c'était un rappel permanent de ce qui s'était passé. Bon, ça, je ne sais pas comment il faut juger cette façon de faire de Jacob, dire cette fille, la fille, la fille elle-même, elle a rien fait, hein, c'est en tout cas, lui, il l'a exilé et il lui a mis une amulette, pardon, une amulette pour la protéger. Et elle est arrivée, je ne sais pas comment, elle est arrivée chez Madame Potiphar. Et d'après Hazal, c'est elle la femme de Yosef. Alors c'est très important de savoir que c'est elle, parce que bon, si ce n'était pas elle, alors il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. Une des choses dont on a déjà souvent parlé, c'est que Osnat et Yosef, ils ont donc deux fils, Ephraïm et Ménaché. Et ces deux fils-là, c'est les deux que Jacob va prendre. Jacob va dire, ceux-là, je les prends et je mets ces deux-là, qui sont mes petits-enfants, au même niveau que mes enfants. Donc il met Ephraïm et Ménaché au même niveau que Reuven, Shimon, Lévi, etc., leurs oncles, en fait. Et on va constituer les 12 tribus, d'accord, avec 11 oncles, enfin, pardon, 10 oncles, et les deux, Ephraïm et Ménaché. Pourquoi Yaakov a fait une chose pareille, on n'en sait rien. Parce que pourquoi introduire cette différence, d'accord? Mais surtout, ce qui est très important, c'est que Ephraïm et Ménaché sont les seuls des 12 tribus. Dans les 12 tribus, il n'y en a que deux qui ont dans leur ascendance à la fois Rachel et Léa. Par leur père, Yosef, qui descendent de Rachel, et par leur mère, à travers Dina, ils descendent de Léa. Personne n'a, sauf eux, dans son ascendance, les deux matriarches, Rachel et Léa. Donc, pourquoi est-ce que c'est à cause de ça que Jacob les a choisis? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que si cette Osnat n'est pas la fille de Dina, alors. Il n'y a rien de spécial. Revient, si on dit ça, alors ça veut dire que Joseph a épousé sa nièce, ce qui est permis. On ne peut pas épouser sa tante, mais sa nièce, on a le droit d'épouser. Alors, la Torah nous donne une indication sur les deux noms des enfants, de leurs enfants, Ephraïm et Ménaché. Pourquoi est-ce que Yosef les a nommés, il a nommé l'aîné, c'est Ménaché. Pourquoi est-ce qu'il l'a nommé comme ça? Parce que il a dit qui Nashani Elohim et kol amali ve et kol bet avi. Que Hachem m'a fait oublier toute ma peine. Grâce à ça, j'ai sorti de ma peine et toute la maison de mon père. En quoi est-ce que c'est extraordinaire d'avoir oublié? Est-ce qu'il faut nommer son enfant parce qu'il a réussi à oublier la maison paternelle? C'est un peu compliqué. Si dans un commentaire qui ramène ici dans le commentaire du Stone, ils disent que c'est impossible de penser que Yosef avait été aussi indélicat pour remercier Hachem de lui avoir permis d'oublier son père en deuil. Au contraire, faut dire que ce nom lui-même montre qu'il se souvenait de Yaakov. En temps normal, ça c'est pas le problème. Le grand problème, c'est pourquoi Yosef, quand il en a les moyens ici, Maintenant, il a parfaitement les moyens, c'est sûr. Comment se fait-il qu'il n'envoie pas tout de suite un message à son père comme quoi il est vivant? Pardon? Ah, dans l'amulette? Je ne sais pas, mais si je savais, je vous dirais pas. Ne sais pas. Je sais pas comment on écrit une amulette. Aujourd'hui, ça pas. Sais pas si aujourd'hui l'amulette a un statut. Parce que la question de savoir si c'est une amulette, est-ce qu'on peut la porter Shabbat? Non, si c'est une amulette, c'est une amulette dont on sait qu'elle est efficace, etc., alors on peut la porter Shabbat, je crois. Oui, alors peut-être, mais ça, c'est pas l'amulette, probablement. L'amulette, c'est quelque chose qui doit la protéger. Là, c'est. Il a écrit son nom. Il y a plein de gens qui se promènent avec des bracelets sur lesquels il y a marqué leur nom pour qu'ils n'oublient pas jamais, je sais pas comment ils s'appellent, etc. Ça, n'importe qui a été une fois dans un hôpital, il a aussi un bracelet avec son nom, sa date de naissance, etc. pour qu'on n'oublie pas, quoi. À part le fait qu'on vous demande, à peu près toutes les 3 heures, on vous demande comment vous vous appelez, quelle est votre date de naissance. Ça, c'est pas une amulette. Amulette, c'est des textes, c'est des mots qui protègent, soi-disant. Je dis soi-disant parce que je ne connais rien. Ah non? Yaakov, il a fait quoi? Ah oui, mais oui, sûrement. Mais si elle lui a dit, elle lui a sûrement dit qui elle était. A priori, on n'épouse pas une femme sans, même quand on est vice-roi d'Égypte, on n'épouse pas une femme sans au moins lui demander qui elle est, comment tu t'appelles, qui est ton père, qui est ta mère. Tout ça, c'est pas marqué dans le texte de la Torah. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit parfait, je dis c'est les seuls qui ont dans leur ascendance la totalité ils ont le patriarche du côté des hommes et ils ont les deux matriarches de l'époque. On aurait eu de nouveau un oncle qui épouse sa nièce. D'accord, Dina était la nièce d'Essav. C'est l'oncle qui épouse sa nièce. Bon, elle aurait amené Essav, avec Essav, elle aurait eu un lien, fabriqué un lien avec la génération d'au-dessus, quoi, en quelque sorte. Ok, donc la suite du récit ici. Bon, alors on a ce qui se passe en Égypte, on le sait, ici. On sait, alors, on s'est arrêté sur le nom. Il a dit donc qu'il m'a fait oublier mes peines et la maison paternelle.
Souffrance.
Pardon?
Je dire la souffrance liée au souvenir
Oui, mais enfin, c'est les...
de la souffrance. Il a dit ma souffrance.
C'est un peu compliqué parce que dans le texte, c'est marqué Et kol amali ve'et kol bet avi. Ça va pas très bien si on veut dire que c'est la souffrance de la maison.
Il ne peut pas oublier la maison de son père, puisque c'est pour oublier la maison de son père que le maman en fait c'est son père.
Oui, non, c'est ce qu'on dit. Les analystes qu'en vérité, même ça montre qu'il n'a pas oublié. Oui, il veut dire que pour aider Yosef à porter cette charge émotionnelle qui était qu'il ne pouvait pas le dire à son père, Hachem lui a donné d'autres pensées afin de l'empêcher de songer en permanence à son père. En nommant son fils Ménaché, Yosef reconnaissait donc qu'Hachem lui avait donné la force de respecter le serment, ce que les frères lui ont obligé à s'engager à ne pas le dire à son père et de ne pas prendre contact avec son père. On dit que au moment de la vente, ils ont fait un cherem, les frères, et interdit à qui que ce soit de révéler à Yaakov ce qui s'était passé. Alors, il y a un sefer qui s'appelle Sefer Hassidim, un ancien sefer, qui dit que ça s'appliquait aussi à Yosef. Alors, il y a un Midrash qui dit que même Hachem était lié par ce serment. C'est pour ça que Yosef ne prend pas contact avec son père ces années.
Ça peut venir aussi qu'il était lié par ce serment.
Yitzhak n'était pas lié par le serment en question,
À lui
mais lui, il avait
ça,
une voix. Il le savait par une voix et on ne lui a pas permis de le dire à son fils.
comment de tout d'un coup rentrer dans le serment de
Comment il est inclus?
pas
Ça,
révéler.
c'est le Sefer HaSidim. Tout le monde ne le dit pas comme ça, mais c'est lui qui pense comme ça, que tous ceux qui étaient là, le Kherem, c'est un Kherem, ils étaient majoritaires, ils ont mis un interdit, un Beddin peut mettre un Kherem, peut décréter un Kherem. Ça, c'est le nom de Ménaché. Et le deuxième, il l'appelait Ephraïm. Ça, c'est qui Ifrani Elokim Beretsoni. Parce qu'Elokim m'a fait fructifier, en fait, ça veut dire qu'il m'a permis d'avoir des enfants dans le pays de la misère, là. Le pays où j'ai été vendu. Et la suite de la paracha, elle va se consacrer au problème de ceux qui, pendant les années de famine, le fait que les gens n'ont pas à manger et que il faut qu'ils viennent, tout le monde est obligé d'aller en Égypte ou en tout, et ensuite en Égypte voir Yosef, enfin, je pense les représentants de Yosef, pour obtenir du blé, pour obtenir à manger. Et c'est de cette manière-là que les frères de Yosef vont venir eux aussi se ravitailler en Égypte parce que la famine, elle touche aussi Eretz Israël, touche aussi le pays dans lequel se trouvent Yaakov et ses enfants. C'est comme ça que, bon, à la fin de cette paracha, on lancera à l'emprisonnement de Shimon et les, bon, et que les c'est ça et que les frères vont découvrir enfin, et Yosef va mettre en scène le vol de la Gvia de la coupe par Binyamin et on va commencer la semaine d'après on commencera donc le plaidoyer de plaidoyer, accusation, etc. de Yehuda. Donc la confrontation de Yehuda et Yosef. Voilà, on va s'arrêter là. Oui?